Radio Okapi.
Le journal Gisèle Cage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information. Nous ouvrons cette édition avec les principaux titres de ce jeudi. Face au défi du maintien de la paix en RDC, Kinshasa et l'ONU resserrent le rang pour une réponse humanitaire plus efficace. La Premier ministre Judith Suminwa et le secrétaire général adjoint de l'ONU ont discuté des obstacles financiers et logistiques qui freinent l'action de la mission onusienne dans les zones sous contrôle rebelle. Une étudiante de Kisangani révolutionne l'hygiène avec un dispositif automatique de lavage de mains. Présentée lors de la cérémonie des collations de grade, cette invention issue de l'Institut supérieur pédagogique marque une avancée technologique locale en matière de santé publique. Ituri face à la crise, quelle réponse pour les enfants déplacés et le réfugié? Michel Meta, responsable de l'UNADI, revient sur les enjeux humanitaires et éducatifs dans une province fragilisée par les violences et l'afflux des réfugiés sud-soudanais. Nous ouvrons ce journal avec une rencontre de haut niveau entre la Première ministre Judith Suminwa et le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Au cœur des échanges de ce jeudi, les défis majeurs auxquels fait face la mission onusienne en République démocratique du Congo. Parmi les préoccupations soulevées, les contraintes financières et les difficultés d'accès aux zones contrôlées par la rébellion qui entravent l'assistance aux populations déplacées. Écoutons à présent Jean-Pierre Lacroix dans cet extrait sélectionné par Jean Ganduka Bongo.
Les efforts humanitaires doivent être financés à hauteur des besoins. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas et vous avez vu les conséquences dramatiques de la baisse des ressources. Deuxièmement, les parties doivent être poussées à respecter les engagements. Et dans les zones où nous avons des restrictions, où nos collègues humanitaires et la MONUSCO ont des restrictions de liberté de mouvement, d'accès aux populations en besoin, tout doit être fait. Tous les acteurs, le Conseil de sécurité doivent se mobiliser pour que nous puissions avoir cette liberté de mouvement et ces ressources nécessaires pour porter assistance à ces milliers de déplacés parce que c'est une situation intolérable. La conclusion que je tire en tout cas de cette réunion, c'est que nous avons d'abord reçu l'expression d'un soutien continu de la part de Madame la Première Ministre, de son gouvernement, de soutien à la coopération avec les Nations Unies, soutien à la MONUSCO, soutien à notre travail commun. Je crois que c'est très important parce que nous sommes en RDC. Notre interlocuteur de tous les jours, notre interlocuteur de référence, ce sont les autorités congolaises. Et donc ce climat de confiance, ce travail conjoint est plus que jamais fondamental pour faire avancer les efforts de paix et aboutir à des résultats concrets.
Après ses entretiens avec la Première ministre Judith Suminwa et le président de la République Jean-Pierre Lacroix a poursuivi ses consultations en rencontrant plusieurs figures de l'opposition congolaise. Au centre des échanges, la quête d'une paix durable, notamment dans l'est du pays, et la possibilité d'un dialogue national inclusif pour renforcer la cohésion et la stabilité. Un reportage signé Jude Mister Bilanda.
C'est sa deuxième visite en 6 mois en République démocratique du Congo. Dans la matinée du jeudi 4 septembre, les hauts responsables onusiens ont rencontré au siège de la MONUSCO plusieurs figures de l'opposition, dont Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound, ainsi que des représentants des partis de Moïse Katumbi, Matata Ponyo et d'Eli Sesanga. Ces échanges ont porté principalement sur le projet d'un dialogue national inclusif. Jean-Marc Kabound a souligné que ces dialogues devraient inclure les Congolais en exil, tandis que les camps Fayoulou a exhorté les Nations Unies à appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui exige les retraits du M23 dans les zones qu'il occupe et la fin du soutien rwandais à ses groupes armés. Martin Fayoulou a également plaidé pour que le prochain mandat de la MONUSCO évolue d'un simple mandat de maintien de la paix à un mandat robuste afin de rétablir la sécurité dans l'est du pays.
Autre fait marquant de la journée, une innovation venue de Kisangani, une finaliste du département informatique technologie de l'Institut supérieur pédagogique a présenté un dispositif automatique de lavage de mains et de séchage, fruit de son projet de fin d'études. Cette invention a été dévoilée au public lors de la cérémonie de collation de grade académique et de la clôture de l'année 2024-2025, présidée par le gouverneur ad intérim Roger Ekongo. Kadimba. Parmi les invités, le nouveau recteur de l'université de Kisangani, le professeur Mathieu Kironguzi, également président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU dans la Tchopo. Jacques Mokonkole nous fait découvrir la structure et le fonctionnement de ce dispositif ingénieux.
Cet appareil de lavage et séchage de mains est une œuvre de l'étudiante Jeanne d'Arc Lombo Edina. Elle est lauréate du département d'informatique technologie du système PADEM à l'ISP Kisangani au cours de cette année académique qui vient de s'achever. Le dispositif mis en place est constitué d'une structure en bois équipée des capteurs de mouvement. L'appareil active automatiquement l'écoulement de l'eau une fois les mains détectées à environ 30 cm, ce qui permet l'évitement de tout contact avec des parois potentiellement contaminées. Les gouverneurs des provinces par intérim, le professeur Roger Ekongo, le recteur de l'université de Kisangani, le professeur Mathieu Kironguzi Bometa, ainsi que le directeur général de l'ISP Kisangani, le professeur Jacques Refrain Lofemba, ont procédé tour à tour à l'expérimentation de ce dispositif, lequel est susceptible de limiter les risques de contamination selon la lauréate. Signalons par ailleurs que l'ISP Kisangani est la première institution de l'ESU à pouvoir procéder à la double cérémonie des collations des grades académiques et des clôtures de l'année académique 2024-2025 dans la province de la Tchopo. Jacques Mokonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Cap maintenant sur la situation humanitaire au Nord Kivu. Des milliers de déplacés internes originaires de Goma, installés à Beni depuis fin janvier, lancent un cri de détresse, fuyant les violences liées à la guerre du M23. Ces familles venues de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi se disent abandonnées sans aucune assistance humanitaire depuis leur arrivée. Selon le comité qui les encadre, plus de 1260 ménages vivent dans des familles d'accueil dans des conditions précaires pour survivre. Certains effectuent des travaux domestiques, d'autres sont contraints de mendier. Ils interpellent le gouvernement congolais et les organisations humanitaires. Témoignage de leur représentant Théo Moussekoura, joint par téléphone.
Depuis que nous sommes arrivés ici comme déplacés, nous n'avons reçu aucune assistance des ONG nationales ou internationales, moins encore une aide du gouvernement provincial. Nous ne savons quoi faire. Ni les PAM, ni les ACR, personne n'a rien fait. Certains enfants n'étudient pas. Et ceux qui sont allés à l'école, ils n'ont rien reçu comme fourniture scolaire et ils sont chassés par manque d'objets classiques. Nous demandons à notre gouvernement, notamment au ministre de l'Éducation, de suivre la situation des enfants déplacés ici à Beni. En bref, nous demandons toute assistance alors que nous sommes encore ici. Nous plaidons auprès de la communauté internationale et au président de la République de résoudre ces problèmes afin de nous permettre de rentrer chez nous et poursuivre nos activités.
Contactez le conseiller du gouverneur en charge des questions humanitaires et connaît les limites de la réponse actuelle. Il affirme que le gouvernement provincial ne peut satisfaire à 100% le besoin des déplacés faute de moyens suffisants. Restons au Nord Kivu où l'insécurité continue de faire des ravages. Le réseau pour le droit de l'homme Redo tire la sonnette d'alarme face à la recrudescence de violences dans les territoires de Beni, Butembo et Lubero. Dans un communiqué publié le 4 septembre, l'organisation révèle qu'en l'espace de 2 mois, 68 personnes ont perdu la vie à cause de l'insécurité persistante. Son coordonnateur Moindo Wasivanywa appelle les autorités à prendre des mesures urgentes pour protéger les civils. Il s'exprime au téléphone avec Martial Papimukeba.
Pour les mois de juillet et août 2025, plus de 68 personnes tuées. 49 à territoire de Lubero, plus particulièrement dans le secteur de Bapir, 11 à territoire de Beni et 8 à ville de Butembo. Vu la criminalité très élevée dans cette entité, les Redo appellent les responsables des services de sécurité et de défense au Grand Nord Kivu, citons les commandants phares de ces Sokola E, les commandants PNC, chef DGM, chef ANR, de bien faire leur travail à sécuriser et protéger la paisible population contre cette criminalité, mais aussi aux instances judiciaires de la zone de diligenter les enquêtes sérieuses pour que les auteurs soient dénichés et jugés. À la population de collaborer avec les services de sécurité à dénoncer tout cas suspect.
Nous n'avons pas pu recueillir la réaction de responsables de forces de défense et de sécurité dans les zones de Beni, Butembo et Lubero, malgré nos sollicitations. Direction Matadi, dans le Congo central, où la sécurité des vendeurs interpelle les autorités locales. Les bourgmestres de la commune de Matadi appellent les commerçants installés le long de la route nationale numéro 1, notamment à Mwandu, à rejoindre le marché officiel pour leur propre sécurité. Cet appel fait suite à un accident tragique survenu à l'entrée de la ville au niveau du pont Ponzo qui a coûté la vie à 3 personnes. Nana Plurish Mambu nous apporte plus de précisions.
Cet accident s'est produit à 17h hier jeudi au pont Ponzo à l'entrée de la ville de Matadi. Un camion remorque a, à la suite d'une défaillance des freins, percuté les vendeurs et autres motocyclistes qui étaient en stationnement le long de la chaussée. Les bilans fait état de 3 morts et plusieurs blessés. Le bourgmestre de la commune de Matadi attribue ces drames aux vendeurs qui refusent d'intégrer les marchés qui pourtant comptent plusieurs étalages vides. Patrick Yamesso.
Il n'y a pas longtemps, j'ai essayé d'aménager l'intérieur des marchés en Voidou. Et puis un petit nouveau marché privé-public derrière le marché en Voidou contenant plus ou moins 300 tables. Mais jusqu'aujourd'hui, nous avons pu utiliser que 20%. Les 80% est vide. Les commerçants ne veulent pas utiliser les marchés. Ils préfèrent rester au long de la route nationale numéro 1. Nous avons même descendu 2 fois avec M. le maire et le commissariat ville de Matadi. Sensibiliser, déloger, saisir même leur petit commerce. 2 jours après, ils sont retournés. Il y a un danger qui guette et je peur qu'un jour que nous puissions subir des conséquences plus que ce que nous venons de vivre aujourd'hui.
Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Nous poursuivons ce journal avec la suite de nos actualités à Bunia, en Ituri. Les acteurs du PDDRCS travaillent à l'uniformisation des outils, des collectes, des données. Un atelier s'est tenu ce jeudi, réunissant les parties prenantes du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation, avec pour objectif de définir des instruments consensuels pour une collecte d'informations standardisées. Le coordonnateur national du programme en mission dans la province depuis lundi a pris part aux travaux. Le point avec Martial Kizabiamongu.
Des acteurs intervenant dans les opérations de désarmement et de mobilisation ont passé en revue toute la documentation et outils opérationnels pour enfin avoir des outils consensuels qui seront utilisés de manière standard. Selon le coordonnateur national de PDDRCS, Jean-Dédier Désiré Tangatinta, l'objectif est de garantir la traçabilité des armes qui seront collectées et traitées dans le cadre des opérations sur le terrain. Il encourage la dynamique actuelle enregistrée en province de l'Ituri avec la vague des réductions des éléments de certains groupes armés locaux, notamment Zaïre, Tchiniakilima et Mapi. Notons que cet atelier se base sur les expériences acquises au cours des opérations précédentes de désarmement et démobilisation. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au sud Kivu, la nouvelle société civile congolaise annonce une suspension partielle de son mouvement de grève à partir de ce vendredi, déclenché il y a 3 jours à Ouvira à cette grève à protester contre la nomination du général Olivier Gassita comme commandant en charge des opérations et du renseignement dans la province. La structure citoyenne justifie cette suspension temporaire par la nécessité de permettre aux habitants de s'approvisionner en produits de première nécessité en attendant les conclusions de la réunion prévue ce jour entre le Ouazalendo, les forces vives locales et la délégation du gouvernement venue de Kinshasa.
Actualité internationale.
Gaza, alors que septembre marque traditionnellement la reprise des cours, les enfants de Gaza risquent de passer une 3e année sans école en raison du conflit en cours. Depuis le 7 octobre 2023, les établissements scolaires sont fermés et la majorité des élèves vivent dans des conditions précaires, souvent sous des tentes. Selon l'ONU, environ 56 000 enfants devraient entrer à l'école pour la première fois cette année, mais l'accès à l'éducation reste extrêmement limité sur place. Sur plus de 66 000 élèves ayant déjà perdu 2 années scolaires, 71 000 n'ont pas pu passer les examens de fin d'études secondaires. Seuls 38% des enfants ont bénéficié d'un apprentissage encadré via des espaces temporaires combinant soutien psychosocial et activités éducatives. L'OTIA déplore que plus de 60% des enfants n'aient eu aucun accès à l'éducation depuis près de 2 ans.
L'invité.
En Ituri, la crise humanitaire continue de priver des milliers d'enfants déplacés d'accès à l'éducation sur fond des violences armées persistantes. À cette situation déjà alarmante s'ajoute l'arrivée de plus de 21 000 réfugiés sud-soudanais dans les territoires d'Aro, aggravant encore la pression sur les ressources locales. Comment éviter que cette crise en s'aggrave davantage? Pour en parler, nous recevons dans ce journal Michel Meta, responsable de l'Union des associations culturelles pour le développement du littoral. Il répond aux questions de Jean-Claude Lokidile.
Michel Meta, bonjour.
Oui, bonjour monsieur les journalistes.
Quelle est aujourd'hui l'ampleur de la crise humanitaire en Ituri, notamment en ce qui concerne les enfants déplacés qui n'ont pas repris le chemin de l'école?
Oui, c'est une très grande inquiétude pour notre population de l'Ituri, parce que à Télé, à Iga Barrière, en centrale, à Lopa, à Nisi, la population fait un déplacement massif pour leur sécurité, plus vers la ville de Bounia. Et avec les enfants et avec les femmes, des personnes de troisième âge, mais particulièrement les enfants pour la rentrée scolaire, ça pose déjà un problème. Et ça vient s'ajouter sur plusieurs problèmes qui rongent déjà le territoire de Djougou, où il y a plus de 64 sites de déplacés où les enfants presque n'étudiaient pas. Alors, cet événement a ajouté les problèmes dans les problèmes. Ce qui veut dire que maintenant la situation est préoccupante pour les enfants ne peuvent pas aller à l'école, et aussi même la prise en charge de ces enfants et de ces familles qui sont déplacées de Djougou vers la ville de Bounia, qui viennent saturer les cas de déplacés, ça nécessite réellement une intervention. Et pas seulement pour une intervention à terme de nourriture, mais une intervention à terme de prise en charge de ces enfants qui sont l'avenir de la République démocratique du Congo. Les laisser dans la rue, c'est aussi un problème pour notre société et pour notre province de l'Ituri. Nous osons croire que le gouvernement prendra vraiment des mesures nécessaires à ce moment ici, et mesures idoines pour que ces enfants soient récupérés à ce moment, pour que les enfants commencent les vies normales et les vies des quotidiens.
Vous tirez la sonnette d'alarme sur le sort de milliers d'enfants. Concrètement, quelles sont les situations les plus urgentes que vous observez sur le terrain?
Il faut voir aussi les cas de déplacés dans les territoires dans les territoires du Rumu, particulièrement dans la chefferie de Banya de Tchabi, où il y a eu beaucoup de déplacés, plus dans le chef-lieu de la chefferie, à cause de la menace des ADF Nalu. Et c'est, voilà, toutes ces familles jetées dans la rue, et les enfants aussi jetés dans la rue. Nous ne savons même pas comment ces enfants vont reprendre le chemin de l'école. Mais aussi dans les territoires de Harou, il y a eu plus de 21 000 réfugiés sud-soudanais qui ont fui les violences dans leur pays en Ituri, et qui ne sont pas tellement pris en charge. C'est une question qui pèse sur la population. On a déjà des conséquences sur le vécu quotidien de la population de la chefferie de Kakwa et de la chefferie de Kaliko.
Entre les violences armées et l'arrivée des réfugiés sud-soudanais, quel message adressez-vous au gouvernement et aux partenaires humanitaires?
Nous pensons que le gouvernement, surtout à travers le ministère des Affaires sociales et humanitaires, devrait faire un effort de faire un déplacement dans la province de l'Ituri, parce que nous connaissons le mandat passé et n'a même pas fait le déplacement en Ituri. Je pense que mon message, que je pense à travers votre micro, va toucher la ministre de l'Action humanitaire, la première ministre et le chef de l'État, pour que la question de déplacés dans la province de l'Ituri et des réfugiés soit réellement prise en charge, et particulièrement la question des enfants déplacés, pas parce qu'ils ont la volonté de se déplacer, parce que les conditions ne sont même pas réunies pour qu'ils regagnent leur milieu naturel. En tout cas, il y a urgence que les autorités provinciales, même au niveau national, prennent cette question au grand sérieux.
Michel Meta, je vous dis merci.
C'est à moi de vous remercier sincèrement, messieurs les journalistes.
Michel Meta, responsable de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, a partagé son analyse sur la crise humanitaire et éducative en Ituri. Son intervention met en lumière l'urgence d'une réponse coordonnée pour éviter une détérioration de la situation. C'est la fin de ce journal sur Radio Capi. À la mise en onde, Billy Landry Betou, à la coordination Jean Gando Kabongo, à la présentation Gisèle Cage. Retrouvez ce journal en podcast sur nos plateformes numériques. Très bon après-midi à vous et merci de rester informé avec Radio Capi.